La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors la dernière fois, nous étions en terre égyptienne pour rencontrer l'actrice, scénariste, réalisatrice et productrice égyptienne Aziza Amir. Puis nous avons fait la connaissance d'une autre actrice égyptienne de théâtre et de cinéma, également productrice, Fatma Rojdi. Et enfin, nous avons terminé l'émission sur Baïga Hafez, qui était également musicienne. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une actrice et productrice libano-égyptienne nommée Assia Daguer, née Almaza Daguer en 1908. En effet, elle est née au Liban et part de son pays pour l'Égypte en 1919 à l'âge de 11 ans. Et elle arrive au cinéma en 1926 à l'âge de 18 ans par le biais de la figuration, et ce dans un long métrage muet que vous connaissez, intitulé « Laïla », et produit justement par notre productrice citée l'émission précédente, Aziza Amir. Ensuite, elle tiendra les rôles principaux dans une vingtaine de films, et ce, de 1927 jusqu'en 1946. Mais entre-temps, et à partir de 1929, dès l'âge de 21 ans, elle deviendra à son tour productrice d'un film tourné par le même réalisateur de Laïla, celui-ci nommé Wadad Orfi, film intitulé « La Belle du désert » dans lequel elle fera tourner sa nièce Marie Kini, qui deviendra elle aussi productrice. Alors, sa société de production, fondée en 1929, la Lotus Film, produira des films dans lesquels elle jouera comme actrice bon nombre de fois. Et il est dit qu'elle prendra aussi des risques en tournant, par exemple, un film de science-fiction. Et elle n'hésitera pas à donner leur chance également à de jeunes réalisateurs. Et elle lancera de futures stars. Alors, dans les années 50-60, elle cesse l'interprétation, mais continue la production de films. Et elle en aura au moins 7 à son actif. Alors, elle produira ainsi le premier film égyptien en couleur en 1952, intitulé « Ruda Kalbi ». Ce film sera également tourné en cinémascope, qui est un procédé technique qui permet d'étirer les images pour en donner une vue panoramique. Et dans les années 60, elle produira un film historique, grosse production d'une durée de 175 minutes, et intitulé « Saladin », ce qui lui avait valu le soutien financier du gouvernement égyptien en place, dirigé par Nasser. Et le réalisateur qui devait faire le film étant souffrant, la réalisation fut confiée à un autre, un Égyptien également, dont la renommée deviendra internationale, puisqu'il s'agit de Youssef Chahine. Alors, le film est tiré d'un livre d'un écrivain contemporain réputé en Égypte qui reçut le prix Nobel de littérature en 1988. Il s'agit de Najib Mahfouz. Et l'histoire se déroule pendant la seconde et troisième croisade du XIIe siècle et oppose musulmans et chrétiens. Alors, il est question de lutte, de compromis, de prise de pouvoir, comme cela peut l'être dans toutes les luttes guerrières. Et à cette époque, Saladin règne sur l'Égypte et la Syrie et tente de reprendre Jérusalem, et s'ensuit un accord avec Richard Cœur de Lion. Alors, j'ai trouvé la musique de ce film composée par un Italien, Angelo Francesco Lavagnino, et je vous propose de l'écouter maintenant pour nous mettre un peu dans l'ambiance cinéma.
Thank you.
aussi à Daguerre. Et son dernier film qui a été tourné en 1968, réalisé par Taoufik Saleh, et qui s'intitule « Le journal d'un substitut de campagne ». Ce film est basé sur les écrits d'un écrivain et essayiste égyptien de renom nommé Taoufik al-Hakim. Et apparemment, il s'agirait surtout d'un témoignage édifiant sur la population égyptienne constituée des humbles et des petits où règne la pauvreté. Un regard porté sur la population pauvre égyptienne au travers d'enquêtes criminelles et où sévit la corruption. Et apparemment, bon, cette dame s'attachera à produire des films notables. Puis elle décédera au Caire en 1986, à l'âge de 78 ans. Alors évoquons un peu le Liban, qui est un pays du Proche-Orient entre la Syrie et Israël, et dont Beyrouth est la capitale, et dont le drapeau affiché, affiche un cèdre vert, emblème de ce pays. Et le Liban fut, de par sa configuration, un carrefour commercial et également culturel, où se sont croisées bien des civilisations différentes, les Perses, les Romains, les Grecs, les Arméniens et Arabes, entre autres, et avec différentes confections. Alors, l'arabe en est maintenant la langue officielle, mais le français y est encore présent, car la France fut mandatée par la Société des Nations après démantèlement de l'Empire ottoman en 1920 pour administrer le territoire. Et c'est en 1943 que le Liban reprit en quelque sorte son indépendance. Et par la suite, le pays a vécu une guerre civile à partir de 1975, et ce pendant au moins un quart de siècle. Mais évoquer le Liban, c'est aussi pour moi faire référence à la personnalité d'un poète qui m'avait marqué il y a bien des années et dont le livre me suit encore. Ce livre m'avait séduite, conquise même, tant il était empreint de sagesse, de poésie et de philosophie. Et l'auteur de ce livre intitulé « Le prophète » se nomme Khalil Gibran. Alors pour dire quelques mots sur ce personnage, puisque nous sommes au Liban, profitons-en. Il vécut très peu de temps sur cette terre, même pas une cinquantaine d'années, entre 1883 et 1931, et qui pour fuir la misère a dû avec sa famille quitter le pays pour les États-Unis, et il est revenu dans son pays par la suite. Alors il eut une existence difficile avec un quotidien qui semble laborieux, et en plus, il perdit une sœur, sa mère, à un an d'intervalle. Donc c'était quelqu'un qui a souffert, certainement quelqu'un de sensible. En tout cas, c'est ainsi que je le perçois. Et aussi, ce fut la création, sa voix de prédilection, d'expression, puisqu'il dessinait, peignait, a exposé et a publié également des livres divers. Alors, je ne les connais pas tous. On peut dire aussi qu'il a été influencé par des personnalités religieuses, chrétiennes ou musulmanes, comme Jésus-Christ ou Mahomet. Et en tout cas, il semblait vouloir créer un pont, d'une certaine manière, de l'un à l'autre, d'une religion à l'autre, ou peut-être plutôt faire vivre une spiritualité vivante. En tout cas, il avait un côté mystique, c'est ce que je perçois dans ses ouvrages. Et son livre « Le prophète » aborde tous les thèmes de nos existences quotidiennes, ce qui fait que sa spiritualité est quand même reliée à la terre. Alors il aborde l'amitié, l'amour, la mort, les enfants, le travail, le mariage, le don, la liberté, la loi, la douleur, la joie, et j'en passe. Avec un sage prophète, dans ce recueil qui répond à des questionnements. Et il répond justement avec beaucoup de sagesse. Alors je ne trouve rien de plus beau que ce qu'il peut dire sur l'amour. Et je vais vous citer ce qu'il écrit. « L'amour ne donne rien que lui-même et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède ni peut être possédé car l'amour suffit à l'amour. Moi, je trouve que c'est très beau, très juste. Alors, le Liban, c'est aussi évoquer le nom d'une poétesse d'origine libanaise qui s'installa en France et mit au monde des chanteurs, musiciens bien connus. D'abord son fils, Louis Chédid, chanteur des années 70-80, et son petit-fils, Mathieu Chédid. Et cette poétesse, également romancière, écrivaine de pièces de théâtre, se nomme Andrée Chédid. Alors, elle était née en 1920, elle décédera en 2011. Je reconnais que je ne la connais pas très bien, mais elle a laissé néanmoins une production littéraire assez importante qui évoque l'Orient, la guerre du Liban, et apparemment elle s'attachait à parler de la condition humaine des êtres humains qui, au-delà des déchirements, s'accrochaient à la vie. Alors, c'est encore une femme créatrice à découvrir, sans doute à lire, ce que j'aurais dû faire davantage avant de vous en parler. Alors écoutons un peu de musique orientale, bien sûr, avant de passer à notre pionnière au cinéma suivante. revenons à nos pionnières et créatrices au cinéma. Alors, une autre Libanaise d'origine est Rose El Youssef ou Rose Al Youssouf, de son vrai nom Fatima Al Youssef, qui est née au Liban en 1898 et qui fut actrice pendant un moment, mais surtout journaliste en créant revues et quotidiens. Alors, elle arrivera en Égypte à l'âge de 12 ans et prendra goût à la scène grâce à sa famille d'accueil composée d'artistes, si bien qu'elle se retrouvera à 14 ans embarquée dans la troupe de théâtre Le Ramsès, que vous connaissez maintenant, puisqu'il a accueilli également Aziza Amir et Fatma Rojdi, que vous connaissez aussi, puisque je vous en ai parlé plus avant. Alors, Rose El Youssef succédera à Fatma Rojdi en tant qu'actrice principale. Elle fera impression sur le public jusqu'à être, paraît-il, surnommée la Sarah Bernard de l'Orient lorsqu'elle interprétera la Dame aux Camélias dans un film tiré du roman du français Alexandre Dumas. Et de plus, et apparemment, c'était une intellectuelle engagée en politique et qui cherchait aussi à faire évoluer les mentalités, à moderniser les rapports que l'on peut avoir vis-à-vis du monde et à réviser les points de vue, notamment sur les femmes artistes. Aussi fonde-t-elle en 1925 un magazine culturel à qui elle donne son nom, Rose Al Youssef. Alors, c'est une revue plutôt libre, à grande audience, et qui deviendra populaire en abordant des thèmes divers de société, où la critique a sa place, et notamment en politique. Artistes, critiques d'art, intellectuels, journalistes, notamment politiques, s'exprimeront ainsi dans cette revue. En 1935, elle fonde un quotidien qui porte également son nom. Elle y abordera des thèmes sensibles comme la religion et la sexualité, l'associera à un magazine d'un éditeur d'ouvrages politiques, puis avec écrivains, journalistes égyptiens, elle fondera la revue Saba al-Kair en 1956 et son fils, nommé Ihsan Saba al-Kair, également journaliste et écrivain, fera vivre cette revue après le décès de sa mère encore quelques décennies. Alors, avec le temps, il est dit qu'elle est devenue une figure emblématique de la presse et du théâtre égyptien. Et un documentaire sera réalisé sur elle par Mohamed Kamel Al-Kalioubi en 2002, intitulé « L'art légende de Rose Al Youssef ». Et elle publiera aussi ses mémoires en 1956, avant de décéder en 1958 à l'âge de 60 ans. Alors, je vous propose d'écouter ici encore un peu de musique. Vous allez être transporté dans le conte des mille et une nuits puisqu'il s'agit d'une pièce musicale intitulée Scheherazade qui fut composée fin 19e siècle par le russe Rimski-Korsakov. Alors, l'histoire est celle de Scheherazade, une jolie et surtout maligne sultane qui, pour échapper à la fin funeste que le sultan prévoyait pour elle et pour d'ailleurs chacune de ses épouses, après la première nuit passée, eut l'idée de raconter des histoires pour stimuler la curiosité du sultan et le tenir en haleine jusqu'à la prochaine nuit. Alors, le stratagème marcha si bien que le sultan oublia son projet et on peut l'imaginer au grand soulagement de ces dames. Thank you. Eh bien, j'espère que cette musique vous a fait rêver et que votre imaginaire à vous vous a transporté dans un autre monde. Surtout que nous allons maintenant quitter nos créatrices libanaises. Je pourrais mentionner d'autres femmes, celles-ci nées avant les années 50 et après, car depuis, le nombre de réalisatrices productrices n'a cessé d'augmenter. Je citerai simplement le nom de Enis Srour, qui elle est née en 1945, une pionnière dans son genre. En tout cas, la première femme arabe à faire sélectionner son film intitulé « L'heure de la libération est arrivée » au Festival international du film de Cannes en 1974. Alors, il s'agissait d'un documentaire sur un conflit armé ayant lieu dans le Sultanat d'Oman, au sud de la péninsule arabique. Alors, nous rencontrerons nos créatrices orientales lors de la prochaine émission, car nous sommes proches de la fin. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage en Orient. Je vous retrouverai avec plaisir pour continuer notre petit périple en terre orientale en compagnie des pionnières créatrices au cinéma. Et en attendant de vous retrouver, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.